RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, l'intégral Tour de France en direct de Bagnères-de-Luchon ce soir au pied des Pyrénées, de ces magnifiques Pyrénées qui nous ont livré un beau spectacle, un peu tardif aujourd'hui, mais un spectacle tout de même dans le final de cette huitième étape qui conduisait donc le peloton de Pau jusqu'à Bagnères-de-Luchon. C'était la deuxième étape des Pyrénées avant la grande étape de demain et l'arrivée en Andorre. On va débattre de tout cela et notamment de la victoire de Christopher Froome qui non seulement décroche la victoire d'étape, la sixième de sa carrière, mais qui en plus s'empare du maillot jaune. Ce sera peut-être pas le dernier dans ce Tour de France. Pour en parler jusqu'à 20h, ils sont avec moi comme tous les soirs. J'ai nommé Cyril Guimard. Bonsoir Cyril.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Jérôme Pinault est également à nos côtés. Salut Jérôme.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Et Thierry Bourguignon comme tous les soirs. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs.
Alors messieurs, on va évidemment revenir sur cette attaque surprise. Il a frappé le premier, notre ami anglais, notre ami britannique Chris Froome, qui remporte cette étape ici à Bagnères-de-Luchon et qui s'empare par la même occasion du maillot jaune de leader avec ce soir 16 secondes d'avance sur un autre britannique. Et oui, deux anglais en tête du Tour de France. Cet autre britannique, c'est Adam Yates de la formation Orica qui pointe avec un retard de 16 secondes. Joaquim Rodriguez, l'espagnol, est troisième, lui aussi à 16 secondes. Et puis un peu plus loin, Valverde 5e à 19 secondes, Quintana 6e lui aussi à 23 secondes, et le premier français, d'ailleurs le seul français dans le top 10, c'est Romain Bardet qui est 9e avec un retard de 23 secondes. Je le disais, Chris Froome a frappé le premier, Jérôme. Là peut-être on ne l'attendait pas, on l'attendait sûrement dans les ascensions des quatre cols où il a fait rouler ses hommes, mais une fois passé le col de Peyresourde, paf, il a attaqué et plus personne ne l'a revu. Attaqué dans la descente, c'est la première fois que ça lui arrive.
Oui, exactement. C'est la première fois. Il a surpris tout le monde et Quintana en premier parce que on a vu son équipe très très forte. Ça, c'est la première conclusion du jour. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'équipe Sky est vraiment présente au rendez-vous. Mais c'est vrai que Chris Froome, sur le sommet du Peyresourde, il a accéléré une première fois. On pensait qu'il allait simplement chercher quelques points pour le classement de la montagne. Et puis finalement, il a continué sur sa lancée. Et il a été auteur d'un grand numéro d'équilibriste dans la descente à très haute vitesse. Et c'est vrai que c'est la première fois que l'on voit Chris Froome comme ça, attaquer en descente. D'habitude, il attend la première arrivée au sommet pour attaquer une bonne fois et essayer d'écraser ses adversaires. Et bien là, c'est dans la descente. Alors, il n'a pas fait des gros écarts, mais déjà, c'est quand même un vrai ascendant psychologique sur ses adversaires.
Alors, comment a-t-il décidé d'attaquer dans la descente? Eh bien, on a posé la question tout à l'heure derrière les lignes d'arrivée au nouveau leader de ce Tour de France, Chris Froome.
Yeah, I mean that really was a last minute.
C'est une décision que j'ai prise au dernier moment. Quintana me suivait, je ne connaissais pas la descente, mais je savais qu'elle était rapide. Il y avait quelques virages et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'attaquer? Je suis vraiment content d'avoir gagné la course. Mes coéquipiers ont vraiment bien travaillé. Ils ont donné leur maximum aujourd'hui pour me permettre de prendre de l'avance sur mes concurrents.
Un tout petit avantage, mais un avantage tout de même pour Christopher Froome. Je le disais, 16 secondes d'avance sur son dauphin. Cyril Guimard, surprenant. Hein, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas. Et d'ailleurs, ses adversaires non plus ne s'attendaient pas à ce qu'il attaque. C'est le cas de Quintana qu'on écoutera tout à l'heure. Il a surpris tout son monde parce que c'est pas vraiment son terrain de prédilection. Son terrain principal, c'est évidemment la montée. Là, c'est dans la descente qu'il a montré qu'il avait de vraies et de belles aptitudes de descendeur.
Oui, alors ce qui me surprend, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il ne connaissait pas la descente, alors que nous on était tous persuadés que cette attaque était préparée de longue date, que le plan a parfaitement fonctionné. Il a descendu, il a tout passé au cordeau, mais quand je dis au cordeau, limite, et il nous dit qu'il connaît pas la descente. Heureusement, parce que
il la descente, il a déjà monté le col de Peyresourde
moi j'écoute ce qu'il dit. Hein.
Non, mais bien sûr, mais en plus, on le sait, ils font les reconnaissances chez Sky. Il n'y a rien qu'ils ne savent pas. Ils reconnaissent millimètre par millimètre. Donc la descente.
Faut pas qu'ils nous disent qu'ils ne la connaissaient pas.
C'est du bluff.
C'est un mensonge.
Parce que une descente comme ça, je suis d'accord avec Cyril. Hein. On voit le descendeur. En plus, la position non académique.
Mais travailler.
mais c'est, travailler.
C'est,
oui,
ben c'est
oui.
Évident.
Et en plus, ça aussi, il le dit. Il dit dans une interview que non, il s'amuse avec ses équipiers à faire des descentes comme ça, mais bon, ils l'ont pas travaillé, mon œil.
Bon, et ça vous est jamais arrivé de raconter des bobards à l'arrivée d'une étape
pour jamais, bluffer vos adversaires. Jamais.
Cyril
on dit
Dimard,
toujours
qui était
que
roi
la
des
vérité
sur le Tour de France, qui donne des leçons là.
Quoi, roi des menteurs
non, c'est le menteur, c'est pas le roi.
Ah, il y a pire que moi alors. Hein.
Non, mais voilà. Ben, maintenant, on a trouvé. On a trouvé.
Ils ont.
T'as ton maître, Cyril.
Je ne mentais jamais, sauf par omission.
Ouais, non, tu ne disais pas la vérité. Tu ne mentais jamais.
Exact.
Voilà.
Merci.
Bon,
alors, merci de le confirmer. Mais cette descente que je connais bien, parce que.
Oui, t'avais perdu un maillot.
J'ai perdu dans la montée, pendant la descente. dans cette étape où j'étais maillot jaune au départ. Et donc, pratiquement toute l'étape telle qu'elle s'est déroulée aujourd'hui, sauf qu'on montait pas le col de Hourquette, j'ai perdu mon maillot ce jour-là parce que, Merckx et Ocagna avaient décidé de se faire la guerre. C'est vraiment pas une très bonne idée. Donc, la descente, je l'ai faite à fond avec Félix chez Gimondi qui descendait très bien. On avait rejoint d'ailleurs Thévenet juste dans le final. Si vous ne la connaissez pas, la vitesse où ça descend là, vous faites un travers, c'est obligé. Hein.
Ouais. Donc c'était repéré, étudié. Oui, et Pierre Roland qui a
frotté un peu le mur. Là.
Ouais,
il a enlevé un peu de peinture sur le côté.
Ouais, il a rebondi sur le mur avant de se remettre sur la route.
Mais c'est de la chance.
Sans
hein, quand même.
Ouais. Il s'est pas fait trop mal. Il a un peu arraché le maillot et le cuissard, mais ça va pour Pierre Roland. Même si on en parlera
qualité,
tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Les Français n'ont quand même pas vécu une grande journée sur les routes du Tour.
Mais ce qui est surprenant, c'est la symbolique de cette attaque. Parce que le reste, c'est du pipeau, il nous chambre, ok. Mais on attendait éventuellement une accélération dans le final. Rappelez-vous, c'est pas lui qui attaque, c'est Henao, son équipier, qui attaque une première fois. Franchement, Quintana va chercher et après il en remet, mais là plus en enroulant. Et aussitôt le sommet, il enclenche. Donc c'était bien quelque chose de
calculé,
et où ça revêt une grosse symbolique. Ça veut dire essayez pas de m'attaquer dans les descentes, essayez pas de m'attaquer dans les montées. Ici le patron,
fort.
C'est moi. Et puis quand vous avez des coureurs qui l'aident en plus à réussir ses coups, c'est parfait.
Alors tout le monde n'est pas de votre avis, messieurs. On va écouter tout de suite Marc Madiot, le manager de la formation FDJ, qui tout à l'heure dans le direct nous a livré une autre réflexion concernant cette attaque de Chris Froome. Attaque en descente, on écoute tout de suite Marc Madiot.
C'était beau à voir, mais en même temps c'est quelque part un petit aveu de faiblesse par rapport à Quintana, ou un besoin de se rassurer, parce que quand on rentre dans ce schéma-là, c'est qu'on n'est peut-être pas tout à fait sûr de faire la différence sur les temps forts et les moments difficiles de la course. Mais il joue parce qu'il sait qu'il peut peut-être pas faire autrement.
Il peut peut-être pas faire autrement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse de Marc? Thierry, tiens, vas-y.
Non, mais c'est pas bête, parce que c'est vrai qu'il a pris énormément de risques pour peu d'avantages à la fin. Bon, il y a une étape, c'est clair. Il y a l'ascendant peut-être psychologique envers les autres, mais il y a surtout, pour moi, il y a surtout une faute de Movistar, parce que quand on joue la gagne, Quintana est dans la roue, il prend le temps de prendre un bidon, et puis il se retourne et il dit aux autres, allez-y si vous voulez y aller. Moi j'arrive pas à comprendre. Après il y a quand même des fautes, il y a Van Garde de Rennes et Richie Porte qui sont de la même équipe, il y en a pas un qui se sacrifie pour l'autre. Mecs qui courent pour la deuxième place.
On va parler des autres dans un instant, Thierry. Restons tout de même sur l'analyse de Marc Madiot concernant cet avis de faiblesse. Est-ce que vous l'avez trouvé saignant dans les montées, Chris Froome?
Oui.
Aussi saignant que les années précédentes.
Il a répondu.
Il y a eu 3-4 attaques. Alors c'était un peu des attaques en regardant dans le rétro, quoi, voir un peu ce qui se passait derrière sans se donner à fond. Mais à aucun moment on l'a senti en difficulté. Il a répondu à Quintana, il a répondu à Romain Bardet. Moi, j'ai pas senti fébrile.
Il a attaqué,
mais gentil. Mais il pouvait pas faire des écarts sur une pente comme Peyresourde. Déjà, il n'arrivait pas au sommet, donc il savait qu'il allait pas creuser. On était plus qu'à 2 km du sommet. Il restait encore 12 coureurs dans le groupe, donc il attaque en général. Il reste 3-4 mecs à s'accrocher à la mort. Mais demain, attention, parce que là, ça a pu être la même. Moi, je le sens pas du tout en faiblesse. Et au contraire, comme Cyril, je dis qu'il a montré aujourd'hui qu'il était aussi très fort en descente. Et demain, il va leur montrer qu'il est très fort en montée.
Donc, personne n'est d'accord avec Marc Madiot, là.
Christophe, il y a un truc qu'il a peut-être voulu mettre au point, c'est que depuis le début on dit ASO pour pas que Froome prenne le maillot de suite la première étape des Pyrénées, ASO a fait en sorte de pas arriver au sommet. Et ben, lui, il a mis les choses au point, il a dit,
exactement.
Vous mettez une arrivée en descente, je vais vous montrer que je suis capable de gagner en descente.
Ouais,
et là, moi, je le trouve, tu vois, le panache, moi, je l'ai trouvé, il y a beaucoup de risques, ok, pour peu d'avantages, mais il y a vraiment du panache, alors vraiment le panache avec le grand P. Ouais. Et Thierry... en plus, ça gagne. Donc,
en plus, ça gagne, exactement. Thierry Kiki sur le hashtag RMC Live nous dit, si Froome réussit déjà à creuser l'écart en descente, ça sent pas bon pour la suite du tour, Cyril.
Cyril. Ben, ça sent pas bon, sauf si on tombe sur la théorie de Marc Madiot.
Voilà. Et peut-être qu'il va vous mettre tous d'accord, Marc Madiot.
Ben, hein, pourquoi pas?
On verra demain.
En tout cas, on le saura demain.
On va
s'intéresser tout à l'heure à cette étape de demain avec l'arrivée à Arcali. Cette fois-ci, ce sera une arrivée au sommet. Ce sera d'ailleurs la première depuis le début de ce Tour de France. Alors, on va s'intéresser maintenant aux movie stars qui ont pris quand même un coup sur la carafe parce qu'ils ne s'attendaient pas à l'attaque de Froome à ce moment-là de l'étape, alors qu'ils avaient réussi à rester dans la roue du Britannique. Et là, au passage au col, eh bien, Chris Froome a donc attaqué. Derrière, on s'est un peu regardé. On a fait autre chose. Hein. Quintana n'était pas concentré, Cyril. Pas concentré du tout. Il était en train de boire un bidon. Ensuite, il jette son bidon, il s'écarte. Et Froome creuse l'écart à ce moment-là.
Il aurait pu rester dans sa roue. Ce garçon, ce Colombien est naïf.
Oui, alors est-ce que c'est lui qui est naïf?
Plus naïf que lui, tu meurs, quoi. Attends, t'es dans la roue du grand favori du Tour. Il reste une descente. Tu viens prendre un bidon, tu bois un coup, tu jettes le bidon quand tu t'aperçois que... Et au lieu d'enclencher, qu'est-ce qu'il fait?
Il s'écarte.
Et là, l'autre, il prend 150 mètres. Salut les gars, quoi. Oui, c'est un grand naïf. Et j'ai presque envie de dire, c'est presque une faute professionnelle. Tu laisses pas partir un gars comme ça, c'est pas possible. Ouais.
Cyril, ne crois-tu pas qu'ils avaient déjà dans la tête de prendre le maillot avec Valverde?
Bah,
moi, je suis persuadé que Valverde s'est dit, c'est bon, on arrive au sommet avec lui, on fait la descente, moi je suis assez fort au sprint et je vais battre tout le monde.
Pas idiot, parce que Valverde était en souffrance quand même sur les 300-400 derniers mètres et qu'il a basculé très limite derrière et qu'il fallait peut-être laisser Valverde rentrer.
C'est le problème cette équipe, hein. Voilà, c'est le problème de cette équipe à deux têtes. On le dit depuis le début.
Sans choisir une tête.
Non, voilà, ils savent pas. Et Valverde, bon, il s'est mis au service de Quintana quand même dans la descente,
mais pas tout au long de la descente. Hein.
Valverde, il est leader dans sa tête. Hein. Il a suivi, il a basculé, il a voulu souffler
Quels ont été les ordres dans les oreillettes, hein.
Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas,
ça a toujours été mauvais chez eux.
On a toujours trop attendu.
N'oublions pas, pour précision, c'est que les directeurs sportifs ont la télévision dans la voiture, donc ils voient ce qui se passe.
Dans la voiture, oui, même dans la descente comme ça.
Mais derrière, à côté, il y a l'autre directeur sportif qui a la télévision.
Alors, Georges Quirino nous a rejoint dans notre camion RMC. Il était tout à l'heure au contact, justement, des coureurs de la formation Movistar et des directeurs sportifs. Qu'est-ce qu'on en a dit, Georges, tout à l'heure? On va écouter Quintana dans un instant. On va peut-être commencer par écouter Quintana et ensuite tu nous livreras ce que t'ont dit les directeurs sportifs tout à l'heure. Tout d'abord, Nairo Quintana, donc, qui s'est fait rouler dans la farine par Christopher Froome.
J'étais en train de prendre un bidon d'eau pour me rafraîchir. Et il a profité du moment. Et puis il est parti devant. Voilà, deux secondes je pensais. Il est parti. Il a pris deux secondes. Et j'espère que ce sont des secondes qui ne vont pas me coûter la course.
Voilà, oui, les gains marginaux de la formation naïf, Sky, il est naïf. Alors, quelles sont les explications? Est-ce qu'on a donné des explications au bus de la formation Movistar, Georges?
C'est surtout qu'il ne s'attendait pas du tout à voir Froome jouer ce coup-là dans la descente. Hein. Le manager Eusebio Unzué nous l'a dit clairement après la course. On ne pensait pas qu'il allait faire quelque chose dans la descente. Donc ils se sont fait surprendre. Ils reconnaissent que c'est une erreur de concentration qu'a fait Nairo Quintana. C'est ce que nous a dit également José Luis Arrieta, le directeur sportif. Et à aucun moment, ils ont reproché vraiment à Froome d'avoir attaqué à ce moment-là. Ils s'en mordent les doigts, en fait.
Les réseaux sociaux disent oui, Froome a manqué de fair play, mais non, c'est la course. Et si on attend tout le monde, finalement,
mais même chez Movistar, ils le disent, que c'est la course.
Mais revenir au fair play,
c'est une
chute, mais il n'y a pas de problème mécanique. Donc l'attaque, elle se passe à tout moment,
ce qui est hallucinant
à la fin de l'étape.
Ce qui est hallucinant, Bourgui, c'est que il te dit, il est surpris, on a été surpris.
Ah ouais, mais...
Ça fait un an qu'il prépare le tour et il sait qu'il a un adversaire, c'est Chris Froome. Comment tu peux être surpris par ton adversaire
non,
numéro 1
Cyril l'a dit, il est naïf.
Il était naïf dans la roue en plus. Non, c'est...
Et il a qu'à faire l'effort lui-même.
Mais bien
il
sûr,
se retourne,
bien
il
sûr.
Attend que tout le monde le fasse.
Quand le favori attaque, tu gicles dans la roue, tu sautes dans la roue.
Il n'y a qu'un effort de 100 mètres à faire. Mais j'arrive pas à comprendre.
Là où ils ont vraiment pris un coup de bambou, c'est que vraiment ce qu'ils voulaient faire les Movistar, en tout cas ne plus avoir à faire sur le Tour de France, c'est de courir après le temps de Christopher Froome. Parce qu'à chaque fois, ils ont été dans la position où Froome a été devant et au classement général, ils ont dû tenter des choses où j'avais tenté en fait. Hein, même l'année dernière, on se souvient qu'on a attendu très tard pour voir Quintana attaquer. Là, bah voilà, ils se disent, bah, ce que nous disait José Luis Arrieta, bah, on est encore dans la situation où on est derrière Froome. On va devoir courir derrière Froome.
Tactiquement, aujourd'hui, la Movistar, il y a encore des choses un peu étranges.
Ouais,
hein, parce que dès le pied du col d'Azé, ils ont mis en route, ils ont sacrifié deux coureurs, Errada et Jon Izagirre, pour finalement finir faire quoi ? S'écarter et relaisser Sky rouler en tête. Donc on n'est pas au point tactiquement chez Movistar.
Le problème, c'est Cyril, le directeur sportif qu'il faut d'aller... changer chez Movistar.
Ouais, va te vendre, Cyril. Parce que là, franchement, s'ils veulent vraiment gagner le tour l'année prochaine, à moins de...
C'est mort, là, pour Tamborghi, déjà ?
Mais non, mais bon, s'il continue à courir comme ça, oui.
Est-ce que demain, s'il pète de la roue, il va dire qu'il s'est fait surprendre ?
Ah ben oui, parce qu'ils attendaient qu'ils freinent.
Ah ouais, c'est ça.
Et qu'ils l'attendent, parce que c'est pas bien. On avait dit qu'on faisait la guerre la dernière semaine, pas avant.
Guillaume nous pose une question, vous pose une question, messieurs, sur l'hashtag RMC Live. Ne pensez-vous pas que l'équipe Sky est encore plus forte que les années précédentes ?
Non, elle est aussi forte que les années précédentes.
Elle est là.
Alors, rendez-vous compte, il n'avait plus que deux équipiers dans le final.
Ah mais c'est lui qui les fait péter.
Ouais, enfin,
ils
il a
se
même
font
fait
péter
attaquer.
Entre eux. Non mais ils sont trop forts. Non mais ils sont trop forts.
À la borne ils étaient encore trois donc.
Très bien messieurs, on va s'arrêter là pour quelques instants. Merci à Georges Quirino venu nous expliquer ce qui s'est dit tout à l'heure au bus Movistar. Donc le classement général, Christopher Froome en tête avec 16 secondes avant sur Adam Yates et donc eh bien les Movistar sont un peu plus loin. Cinquième Valverde à 19 secondes et Quintana dans sa roue sixième à 23 secondes. On part tout de suite pour Wimbledon, la finale du double messieurs, finale 100% française. Eric Salio.
Avec une balle de match à l'instant qui est sauvée par Julien Beneteau et Edouard Roger Vasselin. Ils sont vraiment dans le dur, hein, les deux. Ils sont menés deux manches à zéro, 6-4, 7-6. Il y a 5-3 dans le troisième set pour Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Peut-être une deuxième balle de match à venir puisqu'il y a une deuxième balle de service à jouer pour Julien Beneteau. Je m'attendais à une finale serrée, mais c'est vrai que là, pour l'instant, ils sont ultra dominateurs. Double faute forcée de Julien Beneteau. Nouvelle balle de match à venir pour Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Qui quand même depuis 10 mois ils réussissent des choses absolument insensées, hein. Je répertorie un peu leur palmarès: US Open, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Queens et maintenant peut-être Wimbledon. C'était le rêve de la carrière de Nico Mahut. Le retour est dedans, attention, le passing de Pierre Gerbert peut-être dans volée gagnante de Edouard Roger Vasselin. Deuxième balle de match sauvée par la paire Roger Vasselin-Beneteau, mais je rappelle qu'ils ont quand même un break d'avance, donc je te rends l'antenne si jamais il y a une troisième balle de match, mais pour l'instant il y a donc 6-4, 7-6, 5-3. Si jamais Beneteau et Roger Vasselin remportent leur mise en jeu, eh bien c'est Pierre Gerbert qui servira pour le match tout à l'heure.
Ok Eric, on revient vers toi dans un instant et on revient également sur la route du Tour dans une petite minute pour évoquer les Français. Ouais, c'est pas vraiment la fête aux Français sur ce Tour de France 2016. Pinot a tenté mais encore montré ses limites. Barguil et Roland ont pété. En fait, il n'y en a qu'un. C'est le seul, c'est le dernier. C'est Romain Bardet qui est le seul à avoir réussi à s'accrocher à la roue des leaders. On en parle dans un instant.
RMC Intégral Tour.
L'intégral Tour de France au terme de la 8e étape de cette grande boucle remportée donc par Chris Froome, nouveau maillot jaune de cette grande boucle 2016. Nous repartons tout de suite pour Wimbledon. C'est terminé Eric Salio, les Français ont battu les Français.
Oui, grande émotion pour Nicolas Mahut et Pierre Gerbert qui viennent donc de remporter Wimbledon en 3-7, 6-4, 7-6, 6-3 face à leur pote Edouard Roger Vasselin et Julien Beneteau. Donc 9 ans après, une paire française inscrit son nom au palmarès tennis de Wimbledon. Mais c'est peut-être encore plus grand pour Nico et Pierrick, puisque c'est sur le central, alors qu'en 2007, Arnaud Clément et Mikael Audrey avaient battu les Bryan sur le court numéro 1. Donc je peux vous dire que le plus ému des deux, c'est incontestablement Nico Mahut qui a laissé échapper quelques larmes à 34 ans. C'est vrai que c'est énorme ce qui lui arrive depuis quelques années. Il remporte donc Wimbledon. Cette paire est quasiment intouchable et il est évident qu'on va compter sur leurs points samedi prochain en Coupe Davis. Yannick Noah n'a pas hésité cette fois-ci à les retenir pour le match en République tchèque. Donc ils ont besoin d'un peu de repos parce que les trois semaines ont été éprouvantes. Le jeu sur gazon, croyez-moi, ça tire de partout. Mais je pense qu'ils vont partir en République tchèque avec la tête dans les nuages. Donc victoire, deuxième titre du Grand Chelem pour Nicolas Mahut et Pierre Gerbert. Cerise sur le gâteau, lundi au classement ATP individuel, Nico Mahut redevient numéro 1 mondial et il va le rester un bon bout de temps.
Voilà, et on le retrouvera donc la semaine prochaine pour cette rencontre de Coupe Davis. Et une bonne nouvelle, je crois, Eric, c'est que Berdych ne sera pas là, a priori, pour ce match face à l'équipe de France. Oui. C'est confirmé.
Il,
hein.
La question lui a été posée hier en conférence de presse. Il n'était déjà pas dans la liste initiale, mais en discutant avec certains Français, il disait, attention, il nous prépare peut-être un coup de grisou. Non, pas du tout. Berdych fera l'impasse sur le quart de finale la semaine prochaine. Donc, en simple, on peut prévoir Rosol et Vezeli dans le désordre. Stepanek en double avec un autre joueur. Alors quand, côté français, je pense que Noah va s'appuyer sur Tsonga en numéro 1. Un numéro 2 à choisir entre Pouille et Simon. Et notre double invincible.
Eh oui, ça, ce sera pas mal quand même.
Ça, c'est bien.
C'est quasiment un point assuré. Enfin, on va pas.
On l'espère. Parce qu'une première sélection commune, crois-moi.
Oui, c'est. Il y a aussi l'émotion à gérer.
La même chose. Je pense que ce sera plus dur à gérer que cette finale de Wimbledon.
Merci, monsieur Salut. On te retrouve demain pour la finale du simple homme entre Raonic, donc, et Andy Murray. Ce sera demain après-midi. Merci, Eric. Bonne soirée. À demain. Retour sur la route du tour ici à Bagnères-de-Luchon, toujours en compagnie de Jérôme Pinault, Cyril Guimard et Thierry Bourguignon. On va s'intéresser maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, aux Français, parce que bon, c'est pas la Bérésina, mais presque tout de même, pour ces Français pour lesquels on nourrissait quand même de gros espoirs au début de ce Tour de France, notamment pour Thibaut Pinot, qui faisait quand même partie des favoris ou des très gros outsiders. Bah, le Tour est terminé pour Thibaut Pinot, en tous les cas pour cet objectif-là. Il s'est achevé hier soir avec ce premier coup de bambou. Aujourd'hui, Thibaut Pinot a bien tenté. Il s'est échappé dès les premiers kilomètres de l'étape. Il a franchi en tête les deux premiers cols de la journée avant d'être rattrapé par le train Sky et de perdre pied puisqu'il arrive ici à Bagnères-de-Luchon avec un retard de plus de 16 minutes, ce qui fait que ce soir il est au classement général
dans les choux.
19 minutes. Hein. Donc voilà, le classement général s'est terminé. Ça l'était déjà un peu hier, mais là c'est certainement plus. Thibaut Pinot qu'on va entendre, évidemment, c'est pas la journée à laquelle il rêvait. Non, on peut pas l'entendre. Bon, on l'écoutera peut-être tout à l'heure. Alors, Thibaut Pinot, messieurs, a voulu se rassurer. Il a encore montré tout de même ses limites, Cyril Guimard. Voilà, il n'est pas dans le coup sur ce Tour de France.
Il n'est pas dans le coup. Enfin, moi, honnêtement, sur ce Tour de France, je me prends un petit coup de buis sur la tête, ou alors j'étais un peu naïf.
Comme Quintana.
C'est la première année où j'étais aussi euphorique sur les Français.
Hier, il y a eu
la première bombe, et puis aujourd'hui il n'en reste plus qu'un, quoi.
Alors qu'on était
tous persuadés, attendez, même les résultats des Français depuis le début de l'année, on est la nation numéro 1 sur le plan mondial.
Et là,
on arrive à la deuxième étape de montagne, et puis on est en train de numéroter les abattis, quoi. Non, pour moi, c'est vraiment une très grosse déception ce qui s'est passé hier avec Thibaut et ce qui se passe aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, Cyril? Qu'est-ce qu'il va faire à part se remettre la tête?
Alors, il y a peut-être un objectif, on va en parler. C'est
quoi,
peut-être ce maillot de meilleur grimpeur. Ouais. Il est deuxième au classement, devancé d'un petit point par Machka. Mais derrière lui, juste derrière lui, il y a un certain Chris Froome qui se trouve à 8 points derrière Pinot. Donc,
avec le programme qui est proposé cette année, mais même sur le tour, on va arriver au sommet du Ventoux, on va pas marquer de points, et puis après il y a quand même dans la dernière semaine,
si c'est serré,
en prenant des échappées.
Mais il y a plus que ça, hein.
Froome fait les points aussi, donc ça risque d'être compliqué, hein.
À ce propos, je comprends pas là. Je comprends pas que Froome se mette mal avec certaines équipes telles que Tinkoff en grattant les points à
au sommet du col d'Azay, ouais, je pense que ouais. C'est surtout pour pour rester placé. T'as vu, il a pas pris les points. Il a laissé faire Wouter Pouls. C'est vraiment
bon,
parce que cette descente était.
Non mais arrête. Encore une fois, voilà, on en revient au fair play. Faut-il laisser
non,
les
mais
autres
pas fair play, non,
mais oui, voilà.
Non,
voilà.
Non,
il est fou, mettez devant.
C'est pas,
fou, mettez devant. C'est lui qui passe sur la ligne.
C'est pas une histoire de fair play, Christophe. C'est pas une histoire de fair play, mais si tu mets à dos tout le peloton.
Mais non, mais Bourgui, attends,
ils ont plus de personnes.
Non, mais si on parle du classement de la montagne pour Pinot sur ce qu'on a vu aujourd'hui, sur ce qu'on a vu hier et sur ce qu'on verra demain,
mais il,
il fait croire, hein, c'est tout. Passons de la montagne, il va se faire entre Froome, Quintana et peut-être Machka.
C'est pour ça que tout à l'heure je
parce
disais
que Machka, il était depuis le départ dans l'échappée, il était depuis le départ avec Pinot. Pinot a été rejoint, il a été lâché. Machka, il a été rejoint.
Il est resté au contact.
Et puis il est resté au contact et il va faire le classement. Ce qui veut dire que Pinot était à la planche devant et Machka, il n'y était pas.
Et Machka, il a gagné le
maillot à poids. Hein, Cyril. Cyril, ça se voyait.
Oui, Machka, oui, à ce moment-là, faut savoir. Alors, la vraie question, est-ce qu'il fallait qu'il parte dans le coup ce matin ou pas? Là, on est sur on est sur un truc d'orgueil. Ah ben, je me suis fait larguer hier, faut que je fasse le... Est-ce que, faut que je me rassure. Tu te rassures pas?
C'est panache stupide.
Ouais, mais le panache, tu sais très bien ce que je pense du panache.
Non, mais je suis d'accord.
Non, mais c'est
pas le terme panache. Mais le panache positif de Froome et puis le panache négatif de Pinot, parce que Pinot s'est lancé dans la bataille, mais si tu
mais pourquoi pas faire
bien,
quand t'as explosé la veille, reste tranquillement au chaud toute la journée,
voilà,
à la limite demain tu restais au chaud, tu te refaisais une petite santé à l'étape de repos et puis après tu repartais sur les Alpes avec un objectif précis, aller chercher une victoire d'étape, ce qu'ils ont fait l'an dernier. Mais là, repartir le lendemain, alors tu t'en es pris plein la tête en explosant sur Aspin, et là tu t'en prends plein la tête en finissant à 16 minutes et en essayant d'avoir un discours positif en disant j'ai essayé de me rassurer. De quoi il s'est rassuré?
Alors on va l'écouter justement cette fois-ci. On l'a Thibaut Pinot, le bilan de cette deuxième journée dans les Pyrénées et son retard de 16 minutes à l'arrivée de cette huitième étape.
Ouais, bah je voulais me battre et puis voilà, mais voir où ça nous mène, c'est un pari risqué parce que voilà, j'étais à 3 minutes en général, je savais que j'allais pas me laisser de temps, mais voilà, j'ai tenté ma chance, ça a pas marché, je vais réessayer demain. Hein. Bah, dans l'équipe, on verra, on en reparlera ce soir si on fait un débriefing, mais voilà, ça, on va se fixer des nouveaux objectifs.
Ah oui, il le dit lui-même. Il le dit lui-même. Ils allaient pas me laisser sortir. Je n'étais qu'à 3 minutes,
bien sûr.
Et il tente quand même le coup. Mais c'est stupide, sans déconner.
Côté positif de l'affaire.
Dans sa tête, c'est
il est passé
tête,
en tête
besoin.
Du Tourmalet et ça restera dans les annales.
Ah ouais, les annales. Voilà. On s'en fout, les annales. Les annales, c'est quand tu gagnes. T'as raison.
On a parlé aujourd'hui de Jérémy Roy qui avait franchi en tête ce col du Tourmalet il y a de ça quelques années. Ben voilà, il restera peut-être ça à Thibaut dans quelques temps. En tous les cas,
c'est une grosse déception. Vous prenez Jean-Pierre Danguillaume, il a passé deux fois le Tourmalet, il a gagné une fois au sommet.
Quand tu gagnes, c'est pas pareil.
Et l'étape du lendemain, il repasse au Tourmalet et il regagne l'étape. Là, ok.
Bon, il y a quand même
la classe.
Les garçons, il y a quand même un point positif dans tout ça. Un seul point, si on doit en chercher un, c'est qu'il a remis un peu la tête à l'endroit, parce que sinon, s'il a la tête à l'envers.
Tu crois qu'il a la tête à l'endroit?
Est-ce que tu crois qu'il l'a à l'endroit?
Hier soir, quand tu le vois dans le bus, tu te dis demain, il va exploser au premier col et c'est fini, on va plus revoir Thibaut Pinot. Donc il a bien réagi.
Il a pris 16 minutes,
Thibaut.
Ouais, mais il a pris 16 minutes en étant allé de l'avant. Si aujourd'hui, le problème, si aujourd'hui, il essaye de suivre.
Finalement, de s'être fait larguer hier, ça l'a libéré.
Oui, aujourd'hui il est reparti devant.
Ouais, mais là c'est confirmation, il est vraiment pas bien. Il a confirmé qu'il était vraiment pas bien.
Oui, mais parce que Bourgui, regarde, aujourd'hui s'il part et qu'il essaye de suivre et qu'il réexplose encore, on dit voilà, c'est la fin, c'est la confirmation, il a explosé que là. Parles du fait qu'il a pris 16 minutes, mais tu parles quand même qu'il a essayé de chercher un maillot à poids. Peut-être que ça va devenir son objectif, mais son objectif numéro un, c'est pas le maillot à poids, c'est d'aller gagner une étape de montagne.
Bon, parce alors donc Jérôme, c'est hyper positif parce que là, il s'est remis la tête à l'endroit. C'est vrai que aujourd'hui, rien ne peut lui arriver de pire.
Non, mais là, hier et aujourd'hui, il a pris cher. Donc, il peut pas être moins bien.
Les critiques ne vont pas aller plus loin.
T'as vu, mais même dans son équipe, quand il a explosé, il n'y a personne qui l'a attendu.
Ah oui,
donc,
oui,
ça
c'est
y est,
incroyable.
On l'a mis au rang
abandonné dans la montée.
D'ailleurs, Sébastien Rachat.
Il restait plus qu'à deux.
Non, il y avait Morabito qui était un peu. Rachat Barre était classé, il n'allait pas l'attendre.
Alors, heureusement, messieurs, heureusement, il nous reste Romain Bardet qui lui a réussi à s'accrocher à la roue des grands favoris de ce Tour de France et qui a terminé l'étape en quatrième position avec un retard de 13 secondes derrière Christopher Froome, ce qui fait qu'au classement général, eh bien, il est toujours dans le coup, notre Romain Bardet, 9e au classement général à 23 secondes. Oui, c'est vrai, tu as raison.
Il a attaqué dans le Perro Sourde.
Il a attaqué dans le Perro Sourde, attaque ou net, mais attaque.
Alors, ouais. Par contre, moi, il me fait peur quand il fait ses attaques comme ça. Parce que le retour de Boomerang, il peut le prendre. Hein.
Ouais, mais il l'a fait intelligemment, hein, Bourgui. T'as vu, ouais, il l'a fait sur le sommet. Tu connais Perro Sourde.
Pas trop loin, je veux
voilà,
dire.
C'est ça.
Alors, on l'écoute, justement. Croiser. Romain Bardet, justement, nous racontait ses impressions après cette étape et son état de forme. Tout de suite, Romain Bardet.
Oui, une bonne journée. Difficile avec la chaleur. On a vraiment souffert énormément sur de la chaleur. J'ai eu la chance d'avoir toujours des équipiers avec moi pour m'apporter à boire, à manger, de la glace, etc. Parce que voilà, c'était l'ennemi, c'était la chaleur aujourd'hui. Mais je suis content de mon entrée dans le tour et voilà, on attaque de la meilleure des façons, mon tour est lancé.
Voilà, on attaque de la meilleure des façons, mon tour est lancé. 9e au classement général, Romain Bardet, donc dans le top 10, mais vraiment pas loin, à 23 secondes, il est dans le même temps que Quintana. Que peut espérer Romain Bardet sur ce Tour de France qui est désormais le français number one? Cyril, on commence avec toi. Un top 10, un top 5, un podium?
Moi déjà, lorsque je l'ai vu attaquer, Jérôme a dit que c'était une attaque honnête. D'habitude, sur ce genre de choses, quand il sort de façon beaucoup plus franche. Et il avait un très bel atout dans la descente, parce que c'est quand même un des meilleurs descendeurs du peloton. Alors, est-ce qu'il était aussi bien que ça, ou est-ce qu'il a attaqué uniquement un petit peu pour dire « je suis là ». Je suis pas certain qu'il était aérien aujourd'hui. Mais il faut bien le reconnaître, c'est quand même lui qui nous permet de garder la tête un tout petit peu hors de l'eau. Et à ce titre-là, on ne peut que le féliciter.
Ouais,
sinon,
puis,
ce serait franchement la
Bérésina. Il a donné des garanties. Oui. Il a terminé second du Dauphiné il y a une semaine derrière Chris Froome, il y a 15 jours. Donc c'est lui qui a offert finalement le plus de garanties sur la dernière semaine. Il est en progression constante. L'an dernier, il a joué... une étape, il était là, il est sérieux, on sait que lui, il a la tête bien sur les épaules, il va pas faire n'importe quoi. Là, l'attaque, je pense qu'effectivement, c'était un peu, vous avez mis votre petite sacoche, je vais mettre la mienne quand même pour montrer que je suis là aussi. Mais il a pas fait n'importe quoi aujourd'hui. On verra demain, le vrai test pour Romain Bardet, c'est déjà demain, voir s'il est au même niveau qu'au Dauphiné, c'est-à-dire capable de suivre les Portes, les Froome, les Quintana n'étaient pas là au Dauphiné. Mais voilà, on verra demain si vraiment Bardet peut jouer entre 1 et 3, entre 3 et 5, ou entre 5 et 10 qu'il a l'habitude d'occuper.
5 et 10, moi je le vois.
C'est là qu'il est, c'est la place de Romain Bardet. Comme c'est la place de Pierre Roland et de Warren Barguil, à moins qu'un jour il prenne une grande échappée et le rattrape du temps. Mais c'est ça la place de Romain Bardet, de Roland et de Barguil, c'est là. Romain, je pense qu'il peut voir lui un peu plus haut, entre 3 et 5, pourquoi pas.
Warren Barguil, les autres Français, je donne leur classement, Thierry, 2 minutes. Oui. Warren Barguil qui termine 16e de cette étape avec un retard d'une minute 41 et Pierre Roland un peu plus loin à 1:45. Pierre Roland qui, on le disait tout à l'heure, a raclé les murs dans la descente tout à l'heure. Tiens, Nicolas est avec nous au 32-16. Bonsoir Nicolas.
Ouais, salut les gars.
Nicolas, déçu du comportement des Français, ou plutôt des résultats des Français aujourd'hui?
Ouais, sincèrement, super déçu du comportement des Français, des résultats des Français, puis même de l'étape en règle générale, quoi. Parce que c'est vrai que... ça fait quelques années qu'on a ce sentiment. Bon, il y a 2-3 ans, on avait eu des Français qui avaient fait un super tour. Ça nous avait un peu remotivés. Mais là, c'est difficile de dire qu'on ne s'embête pas devant l'étape. Alors en plus, quand on s'embête, mais qu'on a quand même un Français devant, ben, ça nous motive à la suivre jusqu'au bout. Mais bon, là, déjà, on n'a personne devant. Romain Bardet, c'est vrai qu'il s'est accroché, qu'il est encore là au général. Mais on oublie complètement que c'était que la deuxième étape de montagne. Donc espérons pour lui qu'il arrive à s'accrocher un petit peu plus longtemps, deuxième semaine, troisième semaine. Et puis après, même dans la course, dans son intégralité, bon, ça se joue quand même dans la descente du dernier col. C'est compliqué, ça devient compliqué. Ce que je me disais, c'est est-ce que les organisateurs, ils ne devraient pas se pencher sur la question de pourquoi pas bonifier avec des secondes au général l'arrivée à un col, de manière à ce que les favoris, les Froome, les Quintana, tout ça... Il se motive à se dire que c'est dès le premier col que ça se joue et qu'ils n'attendent pas le dernier quart d'heure pour commencer à se lancer, quoi. Parce que ça devient un peu fatigant, sincèrement. Faut vraiment aimer le vélo pour le suivre jusqu'à la fin, quoi.
Nicolas, bonne réflexion.
Je me suis même endormi à un moment.
Hein. Ah ouais, je l'avoue. Voilà, nous on aura toujours espoir. on aura toujours espoir. Bardet, il est encore là et on sait qu'on le supportera jusqu'à la fin. Et si on a un Français qui est capable de jouer le maillot à poids, ben on sera à fond derrière lui pour jouer le maillot à poids. Et bon, à la fin, ce qu'on attend et ce que vous attendez vous aussi, on le sait, c'est avoir un Français qui joue le maillot jaune et qui se bat pour ça, comme Vauclair a fait il y a quelques années. Je me rappelle un peu la folie que c'était à le supporter, surtout cette dernière étape où il se bat pour 10 secondes. Mais c'est ça qu'on attend.
Eh oui, bien sûr.
On n'attend pas.
Eh oui, on attend la bagarre et on attend les Français devant. Merci Nicolas. Est-ce que vous êtes ennuyé? Est-ce que vous ennuyez, vous, depuis le début de ce Tour de France? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez été déçu, finalement, que ça se joue dans le dernier quart d'heure, comme le disait Nicolas? C'est un peu comme mais ça, tous les jours, la même chose. Il y a un quart d'heure de course,
on le sait que ça se joue dans le terme qui est utilisé depuis quelque temps dans le money time. On sait que c'est dans le dernier quart d'heure ou dans les trois derniers kilomètres d'une arrivée au sommet que les choses se passent, et rarement avant. Et ça pour une raison très simple. Mais tant qu'on n'aura pas été capable de prendre sur un plan politique la décision, c'est-à-dire que tant que vous accepterez des équipes avec 9 coureurs au départ qui sont pratiquement aussi fortes que
le
leader...
Il va nous parler des oreillettes dans 10 secondes.
Des oreillettes dans un petit moment.
Non, mais je ne te parle pas des oreillettes, c'est toi qui en parles. Bon, il faut descendre à 7 coureurs par équipe et avoir 5 ou 6 équipes de plus. Mais comment vous voulez mettre en difficulté une équipe où les équipiers sont quelquefois même plus forts que le leader? Ils ont une capacité à contrôler la course du premier au dernier kilomètre. Et de temps en temps, il y a même d'autres équipes qui viennent les aider, puisqu'on voit Movistar, il y a les deux grosses équipes, ça fait 18 coureurs. Vous en enlevez 4 parce que faut en garder 2 ou 3 pour le final. Ça vous fait quand même 14 coureurs capables de rouler à 50 à l'heure toute la journée. Vous voulez faire quoi?
Mais comment expliques-tu que sur le Giro ou sur la Vuelta, on prend notre pied alors qu'il y a 9 coureurs?
Parce qu'il n'y a pas la même. Il n'y a pas la même homogénéité, il y a moins de bons équipiers. Mais tu autour, tout le monde se bat pour venir au Tour Bourgui. Au Giro ou à la Vuelta, t'as deux mecs qui préparent et les autres, c'est presque la punition. C'est normal qu'il y ait ce niveau-là. Après, derrière, oui, il y a peut-être des choses à mettre en place. Mais le cyclisme est comme ça. On veut clarifier, assainir le vélo. On va pas avoir des envolées. Le dernier qui a fait des envolées s'appelle Floyd Landis. Moi, je préfère foire le vélo d'aujourd'hui. Alors certes, on n'attaque pas de loin qu'un Landis qui se fout de notre gueule et qui finit par être positif. C'est logique, c'est dur. Ils font des parcours de plus en plus durs et les coureurs, on leur demande d'être le plus clair possible. Donc finalement,
Jérôme,
ils attendent la fin.
Reconnais Jérôme qu'en termes de spectacle, c'est pas vraiment ce qu'on a attendu du Tour de France, c'est qu'effectivement les téléspectateurs et les auditeurs risquent de se détourner petit à petit du Tour.
Peut-être
si ça continue comme ça.
Peut-être trouver d'autres formules et pourquoi pas laisser plus longtemps les arriver comme ça en bas, parce que ce soir, certes, Froome il est en jaune, mais il y a que 25 secondes et il y a 12 coureurs en moins de 30 secondes. Donc,
on reparlera évidemment de ce débat, on essaiera de trouver des solutions. Si cela se confirme, et si demain on assiste à la grande bagarre dès le pied d'Arcalis, eh bien on sera content, évidemment.
Dans le dernier quart d'heure.
Le pied d'Arcalis, tu dis.
Mais tu crois que ça va attaquer où demain, toi? Tu crois que ça va attaquer dans le port de la Bodega, là? Non, la Bodega.
La Bodega.
Ce sera pas la fiesta dans la Bodega demain.
Demain, c'est Arcalis. Tout va se passer dans Arcalis. Vous pouvez faire la sieste jusqu'à Arcalis.
Reposez-vous bien.
Et après, wake up.
Allez, on revient dans un instant pour justement évoquer cette 9e étape du Tour de France, puisque le Tour va faire un petit passage en Espagne et en Andorre demain pour cette 9e étape. On revient dans un instant. Et les paris RMC, on ne les oublie pas, tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour, la dernière partie ce soir en direct de Bagnères-de-Luchon au terme de la 8e étape du Tour de France. On vous le rappelle, remporté par un petit Anglais qui débute. Il s'appelle Chris Froome. Il a remporté l'étape et en plus il est maillot jaune. Il va tenter évidemment demain de conforter ce maillot jaune. La grande bagarre pour le classement général se fera non pas en descente mais en montée demain. Allez, tout de suite les paris.
PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Avec Benoît Boutron qui nous rejoint. Salut Benoît.
Salut Christophe, bonsoir à tous.
Bon, tiens, une information, Jérôme, concernant Pierre Roland. On le rappelle tout à l'heure.
Qui a heurté le mur dans la descente. Il est bien, il n'a pas chuté, hein, mais il a heurté le mur de protection dans la descente du pas dans le col de Perrosourd, pardon, et il dit qu'il va aller passer des radios. Il souffre du coude et de l'épaule gauche notamment.
Aïe, 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 pour Pierre Roland. Alors, les paris.
Oui.
Est-ce qu'on a été bon aujourd'hui, Chris Froome? Qui l'avait donné, Chris Froome?
Personne.
Oh là là, personne n'avait donné Chris Froome.
Il était des Pyrénées, on aurait dû y penser.
Moi, je fais deux, hein, je fais deux aujourd'hui.
J'avais dit Dan Martin, Jérôme Pinot fait la meilleure performance. Il fait deux, juste devant notre ami Thierry Bourguignon, qui fait trois avec Joaquim Rodriguez. Ah. Donc, on s'en est pas trop mal sorti pour le maillot vert, les gars. En revanche, pour le maillot jaune, ça y est, c'est officiel. On est tous négatifs. Ça y est.
Bon, bah voilà.
On est comme les banquiers. Et finalement, on fait un peu un tour à l'image des Français.
Qu'est-ce que tu veux?
On est critique, mais on est en négatif
speed, les gars.
On n'est pas mieux. Exactement. On a connu de grosses défaillances depuis le début de ce Tour de France.
On n'est pas bien, on n'est pas bien.
Mais on va peut-être viser le maillot à poids. Il ne reste plus que ça.
On va aller chercher le maillot à poids et les étapes.
Le maillot blanc pour Cyril, ça va être compliqué, mais pour les autres, on verra.
Maillot cheveux blanc pour Cyril.
Il n'y a que Jérôme Pinot, puisque le maillot blanc chez nous, c'est moins de 50 ans. Il n'y a que Jérôme Pinot qui rentre dans le
top. Les gars, on est là aussi avec
lui. Oui, c'est vrai. Moins de 40 ans. Moins de 40 ans. Oui, vous êtes encore là. Oui, d'accord. Il y a quelques jeunes.
Moins de 30 ans, tu peux y aller aussi.
Moi, j'y suis plus.
Hein. T'y es plus.
Moins de 25, hein.
Bon,
c'est ça.
Alors, demain, je parle de l'étape. Ensuite, on va voir les principaux favoris. Donc, 9e étape de ce Tour de France, 184 km 500. Donc, entre Viella, Val d'Aran, c'est en Espagne. C'est la première fois que cette ville espagnole sera ville départ de ce Tour de France. Arrivée en Andorre. Arcalis au pays de Moscato, là-bas, on n'est pas loin de chez lui. Hein. Andorre-Arcalis, donc avec cette dernière ascension, 10 km à 7,2%. Il y aura tout de même de quoi faire avant, mais bon, est-ce que ça va servir à quelque chose? Le port de la Boneiga, pour commencer, 13 km à 6,1%. Le port d'Alcanto, 19 km à 5,4%, là c'est aussi un première catégorie. La côte de la Comelia, deuxième catégorie. Le col de Bechalis, première catégorie. Et donc la montée vers Andorre-Arcalis. Il y a de quoi faire, Jérôme, il y a de quoi faire. Alors, ça va attaquer dès le premier col?
Ah bien sûr, et là, gros danger, moi je pense surtout à mes camarades sprinteurs, et ils sont en danger demain, parce que là on part directement dans le dur, 7 km, 8 km, ça risque d'être compliqué, grosse journée, oui ça va attaquer de bonne heure, parce qu'après il y a quand même une longue vallée, donc l'échappée peut s'organiser. Je pense que les baroudeurs vont prendre la poudre d'escampette, mais avec une arrivée au sommet lors de la première semaine du tour, en général on voit pas une échappée, on voit un favori du Tour de France s'imposer là-haut.
Cyril, tu nous confirmes ça, ce n'est pas pour un baroudeur, c'est pour un des cadors du peloton demain?
Les 60 derniers kilomètres, ça monte.
Ouais.
Faut quand même le savoir depuis CO2 Urgel.
C'est l'accent de.
Oui, c'est l'accent en Bretagne. Bon. Rappelez-vous quand même que le dernier vainqueur à Arcalis, c'est un Français.
C'est Brice Feuillu.
Exactement.
J'étais dans l'échappée ce jour. Un jour, je le raconterai cette anecdote.
Ah, bah, tu le raconteras demain.
Un jour, je vous raconterai pourquoi je n'ai jamais été leader. C'est un docteur espagnol qui m'avait dit t'es pas fait pour ça.
Et tu nous as fait une Pinot.
Je me suis cagué dessus. Ah, voilà. Le maillot jaune m'était promis et je me suis cagué dessus. Je vous raconterai
ça. Oh là là, tu nous parleras demain. Tu nous diras ça demain, évidemment. Tu nous fais saliver d'envie. On a envie.
Et bien sûr, les gens s'endorment. On vient de dire dans notre
déclinement. Demain, vous n'allez pas oublier. Pinot va raconter ses anecdotes et
je peux
vous dire que les balances hors antenne, c'est quelque chose quand même.
C'est incroyable.
Tout ce qui se passe dans le peloton.
Revenez demain, c'est incroyable.
Donc pour les baroudeurs, c'est râpé puisque de toute façon, à l'arrivée à Andorre, les Sky vont faire le ménage. Ils ont 60 km pour le faire.
Voilà.
Hein, quand le dernier s'écartera, Froome partira. Et le classement sera terminé.
Tiens, on va prendre juste une petite minute. Bruno, qui nous appelle de Gironde et qui a reconnu l'étape dimanche dernier. Bonjour, Bruno.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ravi d'être avec vous.
Eh ben oui.
Dimanche dernier, effectivement, j'ai fait une cyclosportive en Andorre et j'ai eu l'occasion de gravir les trois derniers cols.
Ah oui.
Pour moi, ouais, effectivement, très dur. Pour eux, ça sera c'est trop roulant. Ouais, ça sera dur, mais ça va aller très 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 vite dans la montée d'Arcalis. Après, je pense que Bardet, Quintana, ils ont un coup à jouer. Très franchement, le col de Bexalis, l'avant-dernier col, il y a du 15-16%. Il y a 3 km très très compliqués sur des routes très étroites. D'ailleurs, avec la caravane et tout, je sais pas comment c'est prévu, mais c'est vraiment très très étroit et c'est propice à faire quelque chose de vraiment costaud. Par contre, s'ils font ça, il faut un ou deux équipiers devant, parce que l'approche des 10 derniers kilomètres d'Arcalis, c'est super roulant, et c'est à 4 Sky devant, Froome, il va se régaler, quoi. Il va se faire emmener comme sur un plateau. Donc mais il faudra prendre les devants, donc on comptera pas sur Movistar, donc Bardet et AG2R, j'espère.
Eh ben, on espère. Merci, Bruno, pour ces informations. Donc, et bravo, quand même, pour avoir monté Arcalis, là, la semaine dernière. Benoît, oui. les codes et principaux favoris, et vous donnez votre favori en un mot, puisqu'on est assez pressé, messieurs. On va commencer avec Benoît.
Un grand favori, évidemment, c'est le vainqueur d'aujourd'hui, Chris Froome à 3-10, Quintana à 4,20, Haru à 7. J'aime pas faire ça, mais je vais jouer le favori. J'ai écouté le druide, il m'a convaincu. Victoire de Chris Froome pour moi.
Eh bien, moi, je vais donner Quintana demain, parce que je pense que il faut qu'il fasse quelque chose un jour. Il faut qu'il en gagne une. Il faut qu'il batte Froome. Et si c'est pas demain, ce sera jamais. Donc Quintana pour moi. Jérôme.
Eh bien, moi, je vais jouer le local de l'étape, l'espagnol Joaquin Rodriguez.
9,50 pour Rodriguez.
Il connaît parfaitement.
Il habite là. Il habite là.
Il s'est entraîné régulièrement. Donc Purito pour notre ami Jérôme. Thierry.
Ouais, je te rejoins, Quintana, parce que j'ai encore l'espoir qu'il se bouge. Mais bon, il faut qu'il attaque, et franchement, parce que l'attaque d'aujourd'hui, excuse-moi, mais elle est
pas timide. C'est une attaque ou nette, hein.
Ouais, non, c'est pas tôt. C'est pas tôt, il va pas le décoller de là. Il le décolle de 2 mètres, c'est tout. Alors bon. Allez, on joue quand même.
Alors Cyril.
Alors moi, je suis quand même très vicieux. De temps en temps. Vous savez pour qui j'avais parié.
Kelderman.
Oui. Et il est tombé.
Ouais, et tu nous avais dit aussi que les Français allaient cartonner dans ce Tour de France et pour l'instant.
Voilà. Donc je dis Froome.
Le druide a perdu la recette de la main.
Ah, tu veux faire tomber Froome, voilà. si je comprends bien.
Ah, là c'est vicieux.
C'est vilain.
C'est pas bien.
C'est pas très fair-play.
C'est pas bien, mais vous en rêvez tous.
Pas du tout.
Non, moi j'ai embauché des chiens.
Soit battu à la régulière éventuellement. Troqué,
bah voilà. C'est 3-10,
c'est
pour Chris Froome.
C'est quoi la cote pour la chute de Chris Froome?
Ah ça, on l'a pas malheureusement. On a pas le droit.
On a bien mis habillé, mais bon.
Vous êtes vraiment mauvais.
Ah non, il est pas beau.
C'est pas beau, vous êtes
c'est
vraiment
pas beau, parce qu'il a gagné de belles manières aujourd'hui.
Ouais, exactement, il nous a régalé aujourd'hui.
Exactement.
Très bien, messieurs. Merci Benoît. Merci à Jérôme, à Cyril et à Thierry qu'on retrouve évidemment demain. Non pas entre 19h et 20h, mais à partir de 15h.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et non pas 19h parce qu'évidemment demain journée spéciale sur RMC avec la finale de l'Euro entre la France et le Portugal. On va beaucoup en parler dans les heures qui viennent, Loïc Braillet, hein.
Absolument, Christophe. Et on ne fait qu'en parler depuis de longues heures et c'est pas terminé puisqu'on vous prépare, messieurs, dames, plus de 40 heures de direct non-stop à partir de demain 8h et jusqu'à lundi soir très tard. En attendant, la Dream Team est là, elle se prépare pour la grosse journée de demain. Eric Dimeco nous rejoint, Steve Savidan également. On va se poser plusieurs questions jusqu'à 22h. L'after suivra juste derrière, notamment l'aspect physique de l'équipe de France. Faut-il s'inquiéter du peu de récupération qu'ont eu les Bleus entre le match de l'Allemagne et la finale de demain face au Portugal? 32-16, vous êtes les bienvenus. Et sur le hashtag RMC Live, à tout de suite.